parentalité,
grossesse,
parentalité,
famille, blessure, travail, dysfamilie, accouchement,
travail, discours, grossesse,
handicap,
maladie, maternité. Mama, le podcast des maternitants. Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'épisode 14 de notre podcast Mama. Dans cet épisode, Hélène, sage-femme, nous parle de sa formation, de sa pratique et de sa conception de l'aptonomie. Ses propos ont été recueillis par Lucie. Bonne écoute!
Alors, je suis Hélène Vikenel-Labing, je suis sage-femme depuis 1980. J'ai été diplômée en 80, j'ai tout de suite aimé mon métier. Tout de suite. Et j'ai un mari et trois enfants. En fait, j'ai travaillé longtemps, 20 ans en salle de naissance, un peu plus de 20 ans, 25 ans presque, en salle d'accouchement, vraiment. J'ai adoré faire les accouchements. Et au cours de tout ce temps-là, j'ai eu la chance d'être dans une équipe de jeunes sages-femmes où on était toutes en train de découvrir la salle de naissance. Et il y avait une qui apprenait la sophrologie, l'autre l'acupuncture, enfin voilà. Et cette jeune équipe était très, très attentionnée de comment on accueillait les mères. Et on a fait un beau travail pendant longtemps et on était aussi très marqués par le travail de Frédéric Le Boyer dans les années 70 pour une naissance sans violence où l'accueil des bébés se faisait sans bruit, sans on donnait le bain aux bébés, c'est plus du tout à la mode, mais on faisait, et il reste encore des traces de ce travail de Frédéric Le Boyer dans le pot à pot avec le bébé, l'accueil du bébé. Moi, quand j'étais jeune sage-femme, j'ai vu des médecins particulièrement attraper le bébé par les pieds et lui donner une fessée sur les fesses pour qu'il réagisse. Donc ça, on ne voit plus jamais ça et c'est quand même ces années Le Boyer qui ont permis ça. Et donc dans cette jeune équipe, on a vraiment fait attention à ça, l'accueil des bébés, donner un bain au bébé avec la maman dès la naissance, qu'il n'y ait pas trop de bruit dans la salle de naissance, qu'il n'y ait pas trop de lumière, enfin voilà. C'était notre propos. On a eu cette chance, on a fait beaucoup de choses comme ça. Personnellement, j'ai tout de suite été touchée par un livre que j'ai aperçu un jour dans une vitrine. Aptonomie, science de l'affectivité, comment redécouvrir l'humain. Le titre m'a tout de suite touchée. Donc j'ai aussitôt acheté ce livre, c'était en 1985, je me rappelle, ou 86. Et qui était un livre très difficile à lire, très philosophique, mais j'en ai lu des petits bouts, je sentais que ça me touchait, voilà, donc je me suis dit peut-être un jour je me formerai en aptonomie, mais ça me semblait loin, peut-être pas, je savais pas trop, et c'était loin de fait géographiquement puisque les formations se passaient dans les Pyrénées-Orientales. Okay. Entre deux, j'ai eu des enfants, ça compte aussi. Je me suis dit, je vais faire de l'acupuncture. Donc, j'ai fait des études d'acupuncture, 3 années d'études d'acupuncture qui m'ont passionnée et qui surtout m'ont ouvert tout un champ de la toute puissance médicale n'était plus là. Il y avait aussi la puissance humaine. Et les éléments qui intervenaient dans nos vies, le ciel, la terre, les saisons, etc. Ça m'a passionnée de connaître cette philosophie chinoise. J'avais beaucoup de cours de philosophie chinoise. J'ai passé un diplôme, j'ai eu un diplôme d'acupuncteur, sage-femme. Et ça, c'était en 92 à peu près. J'ai eu une autre fille. Et l'arrivée d'une fille dans notre maison m'a beaucoup mise en mouvement. Et donc, de là, j'ai commencé une thérapie. C'était difficile pour moi d'être mère d'une fille, pour des raisons qui m'étaient propres. Et donc, après, ça m'a emmenée à l'aptonomie. Et voilà, c'est comme ça, ce parcours humain venait se rejoindre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie de mère. Voilà. Mais c'est le féminin qui était tout de suite attrapé.
Donc, tu es partie faire cette
formation. Donc, je suis partie en 97, je crois, faire cette formation dans les Pyrénées-Orientales. Il y avait deux formations de base qui étaient 2 fois 4 ou 5 jours, je ne me rappelle plus, où on était en tronc commun avec les médecins, les éducateurs, les psychologues, les infirmiers, les sages-femmes, voilà, tous les corps de métier soignants. Et donc, c'était la découverte de l'aptonomie. Là, c'était vraiment la découverte de qu'est-ce que c'est que le contact entre les humains, le contact, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour un humain d'être contacté dans le respect et qu'on s'adresse à lui dans son entièreté, puisque tout à l'heure tu évoquais le mot entièreté. Mmh. Et voilà, donc ça, ça a été tout de suite, j'ai été touchée, mais je crois comme les 30 ou 40 personnes qui étaient dans la salle. Et il y a une phrase qui me reste, j'ai eu la chance d'être formée par le fondateur, Franz Wellmann, à Homs, une phrase qui m'a très vite marquée, qui disait, quand on commence l'autonomie, il faut que vous sachiez que jamais plus votre vie ne sera la même. Et ça me plaisait, ça me faisait un peu peur, mais en même temps, je me disais, bon, bah oui, c'est bien, parce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent, ça doit être ça. Voilà. Et voilà, et c'est une phrase qui m'est restée longtemps, longtemps, et même quand ça n'allait pas bien, je me disais, bon, ben Hélène, t'as voulu que ça change, ben ça a changé.
C'est maintenant.
Ben ça y est. Oui. Voilà. Donc il y avait deux stages comme ça, et puis après, en fonction de notre profession, c'est toujours comme ça. Les tempos ne sont pas les mêmes, mais il y a toujours des séminaires de base, et après, chacun, selon sa formation professionnelle, va soit en périnatal, soit en aptopsychothérapie, soit en aptocinésie, qui est vraiment l'accompagnement des soins des malades. Ça s'adresse plus aux infirmières, aux médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà, ça sont les formations de base. Et après, on peut faire des petites formations de apto-obstétrique, c'est-à-dire aptonomie en salle d'accouchement, d'apto-pédagogie, d'apto-puriculture. Voilà, enfin, il y a plein de petites, ça se décline un peu après, mais il faut au moins avoir fait ça, chacun dans sa spécialité. Ouais. Donc, moi, je me suis formée à partir de 97, c'est long, hein, ce sont des formations qui sont toujours sur un an ou deux,
d'accord,
parce qu'il faut le temps de maturer ce qui a été vécu, ce qui a été senti, ressenti. Après, j'ai fait apto-obstétrique, et là, j'ai rencontré un obstétricien allemand, Mehdi Djalali, dont je tiens à parler parce qu'il est décédé la semaine dernière et que c'est quelqu'un qui a marqué fort ma pratique de sage-femme formée à l'autonomie, qui est un obstétricien qui a fait 10 000 naissances dans sa vie, dont 4 000 accompagnées en autonomie, et où il a vu vraiment la différence dans l'obstétrique déjà, c'est-à-dire que sur toute sa population, quels que soient les antécédents, l'âge de la mère, etc., il a 2% de césarienne.
Okay.
Et puis sur comment se développent les enfants après. Et voilà, on a fait un groupe de travail avec lui, à quelques-uns, là, dans cette région normande. On était une dizaine, pendant 5 ans. Et ça a été un vrai bonheur aussi. Ça a été très profond, un travail très profond, qui vient toucher vraiment le féminin et la liberté des femmes, la liberté profonde, et des enfants.
Ouais.
Voilà, et puis après j'ai fait une formation en aptopédagogie, parce que j'avais envie de savoir ce que devenaient tous ces enfants, même si je ne reçois jamais d'enfants adolescents, c'est pas mon propos, c'est pas mon travail, mais ça m'a intéressé de retraverser toutes ces étapes de la vie des enfants. Et voilà, et depuis ça continue. Après j'ai quitté la salle de naissance, je me suis installée j'ai travaillé 2 ans en PMI et après je me suis installée en libéral. Et en fait, moi, ce qui m'animait toujours et ce qui m'anime encore et toujours, c'est la naissance. Et en fait, j'ai jamais quitté ce fil conducteur, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas un accompagnement prénatal et postnatal, puis la naissance, c'est autre chose. La naissance, c'est le point d'orgue de tout le reste. C'est vraiment à ce moment-là que se délie ce qui doit se délier si ça n'a pas été fait avant. Et c'est un moment fondateur, essentiel, initiatique pour la mère et pour l'enfant et pour le père. Et donc, couper la naissance du reste de la vie, c'est un non-sens. Et ça ne permet pas aux femmes et aux enfants et aux pères, probablement, je connais moins le sujet, mais je le connais parce que les accompagnements en autonomie ne se font qu'avec les pères. Mais cette naissance qui est coupée du reste, en fait, coupe les femmes, les hommes, les enfants, je ne sais pas, mais de leur complétude et de ce moment qui serait coupé du reste de la vie et qui ne permet pas aux parents, aux femmes, aux enfants de vivre ce défi qui doit être accompagné pour pouvoir être traversé. Mais leur retirer ça, c'est retirer un des fondements de notre vie.
Et quand tu dis retirer, c'est quand on médicalise trop,
voilà,
à ce moment-là ?
Quand on le médicalise à outrance, sauf si c'est nécessaire, bien sûr. C'est pas contre le corps médical. C'est, pour moi, l'essentiel, c'est de rendre autonomes le plus possible les femmes et les hommes pour que leur enfant naisse le plus librement possible. Parce que c'est comme ça qu'on fera des humains libres et non violents. Mmh. Et comme dit Mehdi Djalali, la paix commence dans l'utérus de la mère.
Et oui, oui.
Voilà.
Mais on s'en rend compte dans l'expérience que tu nous fais traverser, enfin, ou en tout cas, que tu essaies de nous... Enfin, là où tu essaies de nous emmener. Parce que, enfin, moi, quand je raconte mes accouchements, je dis toujours, Hélène, elle m'a fait accoucher de mes enfants. Enfin, tu m'as fait accoucher de Paul, d'abord. Voilà.
C'est toi qui as accouché, quand même.
Oui, oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, tu m'as emmenée sur un chemin où c'est pas un accouchement.
Non, c'est ça.
C'est pas une femme qui accouche. C'est Lucie qui a fait un enfant avec David, et ensemble, voilà, vous allez emmener Paul quelque part, et lui va
y aller,
montrer le chemin. Ouais, ouais. Et voilà, et ça, et parce que les accouchements n'étaient pas du tout pareils, et dans la manière que tu as d'aborder, elle est différente selon l'enfant qui est à l'intérieur aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre.
Oui, alors là, c'est la chance et ton intelligence, Lucie. Mais je crois que toute femme peut sentir si on l'y amène. Et c'est ça qui est compliqué, qui est très triste aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était mieux avant, parce qu'il y avait plutôt une non-conscience. Mmh. Donc, ce n'est pas de revenir en arrière. C'est maintenant qu'on a toutes ces connaissances et qu'on a découvert l'échographie aussi, qui nous a appris beaucoup.
Ouais.
Mais on peut aller plus loin et permettre aux femmes, aux hommes et aux enfants de vivre ensemble cette singularité. C'est-à-dire que cet enfant-là n'est pas le même que l'autre, n'est pas le même que le suivant. Et donc, il montre autre chose. Et c'est aux parents de s'adapter, non pas l'inverse. Et ce n'est pas s'hyper adapté non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des règles de la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles de vie ensemble. Au contraire. Mais cette autodétermination de l'enfant, sa liberté à être lui-même, c'est dès la vie prénatale que ça se perçoit. Et c'est aux gens qui accompagnent en autonomie de permettre à la mère de sentir ça. Que ce n'est pas pareil d'un deuxième à un premier, non pas parce que c'est un deuxième et un premier, c'est juste parce que ce n'est pas le même être humain. C'est un autre. Et c'est vraiment ça la richesse, c'est aller rencontrer encore un autre et encore, qu'on ait un, deux, trois, quatre enfants. C'est jamais la même chose. Non pas parce que c'est la quatrième grossesse, mais c'est parce que ce n'est pas le même être humain qui va venir. Et replacer l'être humain au centre de sa vie, dans ce moment essentiel, accompagné de ses parents, ça change le regard du monde.
Mmh. Oui, absolument. Et quand tu dis que l'autonomie, une phrase qui t'a marquée, c'est « vous allez changer votre vision de votre environnement », moi, je me rends compte aussi que ça a changé beaucoup de choses. Alors déjà, dans mon appréhension des enfants, parce que je les ai eus à une trentaine d'années et que j'en avais croisé pas mal avant, et que j'avais un rapport avec eux un peu différent, mais de les prendre en tant que petites personnes, en fait,
ça.
Et pas en tant qu'enfants qui sauraient moins de choses qu'eux. Enfin, ils ont une expérience moindre que la tienne, c'est sûr, mais en tout cas, si, dans le toucher, on est très câlin, mais je veux dire, dans la manière dont on s'adresse à l'autre.
Et les enfants perçoivent tout. Ils perçoivent de manière intense qui ils sont d'abord, même s'ils n'ont pas de mots sur tout ça, s'ils sont dans cette conscience, mais ils le vivent intensément. Donc, les entraver là-dedans, c'est leur retirer une part de leur liberté. Et la liberté, elle n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut et à tout prix. Ce n'est pas ça que je défends du tout, parce qu'il y a des fois des malentendus. Ah bon, alors il faut leur laisser tout faire. Non, surtout pas. Mais lui permettre de devenir ce qu'il est dans son être profond, c'est quand même ça qu'on aimerait que tous les enfants puissent vivre. On dit en autonomie la constellation significative de cet être-là, c'est-à-dire qui il est vraiment au fond de lui. Et c'est dans ce contact prénatal et pendant la naissance et dans le post-natal immédiat, dans cet accueil inconditionnel de la mère pour son enfant, que ça se construit. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour la mère, hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour le père, ça ne veut pas dire que tout ça, ça se fait tout seul et ça ne tombe pas du ciel. Ça s'apprend. Et vraiment, ça s'apprend. Ça s'apprend, cette confiance-là, elle s'apprend, elle se développe. C'est pour ça que le père, il est le soutien ferme de tout ça, dans cette confiance-là. Et ça aussi, pour lui, ça s'apprend. Parce que le père, il est loin de tout ça. Voilà, et on n'est pas si sûr qu'il ait une confiance absolue dans sa femme. Enfin, parfois oui, mais pas toujours. Et ça, c'est aussi le défi et le challenge pour les hommes, d'être confiants dans cette puissance féminine, et non pas toute puissance féminine, cette puissance des femmes, à mettre au monde, à porter, à nourrir, et eux toujours là pour être cette espèce d'autre qui va ouvrir au monde. C'est pas espèce d'autre, c'est autre. Parce que là, c'est pas sympa pour eux. C'est...
Retrouvez la suite de cet entretien dans notre prochain épisode.
Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion, Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Matermittentes.
Merci à Epsilus pour la création musicale du générique, à Pierre-Jérôme pour le mixage, à Olivier pour le graphisme de notre visuel.
Merci également aux personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle.
Léa, Malou, Benjamin,
Caroline, Carmen, Oscar et Ambre. Retrouvez-nous sur www.matermittente.com.